1 Timothée 6, en commençant au verset 6. Or la piété avec le contentement est un grand gain, car nous n'avons rien à porter dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Mais ayant la nourriture et de quoi nous couvrir, nous serons satisfaits. Or ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation et dans un piège, et dans plusieurs désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Et puis au verset 17, ordonne à ceux qui sont riches dans le présent siècle qu'ils ne soient pas hautains et qu'ils ne mettent pas leur confiance dans l'incertitude des richesses, mais dans le Dieu qui nous donne toutes choses richement pour en jouir. Qu'ils fassent du bien, qu'ils soient riches en bonnes œuvres, qu'ils soient prompts à donner, libéraux, s'amassant comme trésor un bon fondement pour l'avenir, afin qu'ils saisissent ce qui est vraiment la vie. Et puis on va lire aussi en Matthieu au chapitre 6. En commençant au verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup mieux qu'eux ? Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille ? Et pourquoi êtes-vous en souci du vêtement ? Étudiez les lys des champs, comment ils croissent. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que même Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Et si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain est jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas beaucoup plus tôt, gens de petite foi ? Ne soyez donc pas en souci, disant « que mangerons-nous ou que boirons-nous » ou « de quoi serons-nous vêtus ?» Car les nations recherchent toutes ces choses. Car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors, vous vous dites peut-être que je vais parler de la richesse, c'est pas le sujet. Il se trouve qu'il y en avait beaucoup dans ces passages, mais ouais, toi t'as vu le titre, c'est pour ça que tu triches.
Ben non, mais j'ai pas mes lunettes, donc il y a le contentement.
Non, on va parler de contentement, effectivement, on va parler de contentement. En fait, en relisant le chapitre de 1 Timothée 6, là récemment, je méditais après sur ce passage et ça m'a fait réaliser quelque chose. C'est que je crois qu'il y a un des grands pièges que le diable nous tend, c'est de nous faire vivre en attendant toujours quelque chose. En fait, en étant toujours dirigé vers quelque chose qui nous manque et qu'on va avoir, et puis on verra à ce moment-là. Et en fait, on pense à ça et pendant ce temps-là, on pense pas à ce qui se passe aujourd'hui. Et du coup, alors ça peut être des quantités de choses où on s'imagine que les choses iront mieux quand on aura cette chose, ou on sera enfin heureux quand on aura cette chose, ou à ce moment-là, on pourra faire autre chose qu'on peut pas faire maintenant, etc. Et ça peut être, alors, des quantités de choses, ça peut être le jour où je me marierai, ça va régler certaines choses, le jour où j'aurai un enfant, le jour où j'aurai une maison, le jour où je serai promu dans mon travail, où on me reconnaîtra, le jour où j'aurai mon diplôme, quand je serai enfin à la retraite, je vais pouvoir faire ci ou ça. Mais on a tout le temps, j'ai l'impression qu'on a tout le temps dans nos vies des échéances comme ça qui sont devant nous. Et le risque, c'est qu'on passe notre vie présente en mode « j'attends que », au lieu de voir ce qui se passe aujourd'hui et ce que Dieu a pour nous aujourd'hui. Et en fin de compte, quand on attend quelque chose comme ça en se disant « ça ira mieux après », au final, quand on y arrive, on va se rendre compte qu'il y aura toujours quelque chose d'autre derrière. En fait, c'est sans fin. C'est un truc absolument sans fin. C'est comme... je ne sais pas si vous avez déjà fait de la rando en montagne, mais quand on vous a dit on va au sommet, et donc vous montez et vous voyez un sommet là, et vous vous dites c'est faisable, ça paraît pas très loin. Vous montez, vous êtes déjà bien fatigué, vous arrivez au sommet. Et quand vous arrivez sur ce sommet, en fait, c'était un sommet accessoire. Et de là, vous voyez que derrière, il y en a un encore plus haut. Et en fait, c'était probablement ça. Et vous marchez, c'est très long. Vous avez toujours ce sommet-là en vue, disant une fois que j'y serai. Et une fois que vous y êtes, ça recommence. Parce que c'est toujours pas le bon sommet, il y en a un autre derrière. Vous savez que ça marche comme ça, la marche en montagne. Mais moi, j'ai l'impression que ma vie, elle marche comme ça. C'est-à-dire que depuis le début, et ça ne s'arrête pas, si je fais pas attention, elle marche que comme ça. C'est-à-dire, j'ai vécu une grande partie de ma jeunesse en me disant, il faut que je me marie. Et c'était ma grosse montagne. Et puis, je me disais, une fois que je serai à cette montagne-là, tout va être réglé dans ma vie. Ça va être, ouais, après, c'est de la plaine. Tout va bien. Et quand tu arrives en haut de la montagne, tu te rends compte que bah, tu veux autre chose après. Après, tu veux des enfants. Et donc, tu as une autre montagne derrière. Et il faut monter sur la dernière. Et alors, moi, j'en ai pas eu. Mais j'imagine que quand tu as des enfants, après, tu veux encore autre chose. Et en fait, que tu l'aies ou que tu l'aies pas, dans tous les cas, il y a toujours autre chose derrière que tu veux. Et je pense que c'est vraiment une façon... Alors, je sais pas si c'est les femmes qui sont faites comme ça ou si les hommes pensent pareil. J'en sais rien. En tout cas, je pense que les femmes fonctionnent vraiment beaucoup comme ça. Et je crois que le diable utilise ça pour occuper nos pensées d'autre chose que ce qui est important, de pas réfléchir par exemple à ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui dans la situation dans laquelle on est, qui a ses défauts, qui est pas celle qu'on aimerait idéalement, celle où il nous manque encore les choses, celle où on n'est pas encore au sommet, mais il y a quelque chose à vivre là aujourd'hui maintenant, et pendant qu'on pense à comment ça va être après, ben on s'occupe pas de ce que Dieu veut pour nous maintenant. Et je pense que c'est une façon d'enterrer notre talent. Vous savez, vous vous rappelez cette parabole des talents, où le maître, en s'en allant, donne des talents à ses serviteurs, et puis il y en a plusieurs qui les font fructifier, et il y en a un qui l'enterre pour le lui rendre quand il rentre. Et finalement, quand on passe notre vie à attendre le truc suivant qui va nous permettre peut-être de faire des choses, puis le truc suivant, ben, c'est comme si on enterrait notre talent, en fait. Et du coup, c'est pas étonnant que les passages qu'on ait lus parlent autant de la richesse, parce que la richesse, c'est vraiment un exemple comme la montagne. C'est-à-dire, on a tous, au fond de nous, ce désir d'avoir plus d'argent, c'est quand même complètement humain, pour toutes sortes de raisons, même sans être avare et même sans avoir l'appât du gain. Juste quand on a plus, on s'imagine qu'on va faire plus de choses. Et c'est vrai, il y a des choses qu'on peut faire quand on a plus. Mais il y a aussi des choses qu'on s'imagine qu'on va pouvoir faire. Parce qu'en fait, avec la richesse, vient le désir de plus de richesse. Et en fait, quand on a plus, on fait le plus de choses qu'on espérait pouvoir faire. Mais on commence à avoir envie d'autres choses dont on n'avait pas envie avant, parce qu'en toute façon, on n'avait pas les moyens. Et donc, c'est sans fin aussi. C'est exactement pareil. C'est cette quête permanente de quelque chose qu'on n'arrivera jamais à obtenir à un niveau qui nous accorde la satisfaction, en fait. Et il y a plusieurs versets dans la Bible qui parlent de ça, mais je vais juste vous en citer quelques-uns. Il y a par exemple Ecclésiaste, au chapitre 5, les versets 10 à 12, qui dit « Celui qui aime l'argent n'est point rassasié par l'argent, et celui qui aime les richesses ne l'est pas par le revenu. Cela aussi est vanité. Avec l'augmentation des biens, ceux qui les mangent augmentent aussi. Et quel profit en a le maître, sauf qu'il les voit de ses yeux? Le sommeil est doux pour celui qui travaille, qu'il mange peu ou beaucoup, mais le rassasiement du riche ne le laisse pas dormir. » En fait, c'est vraiment pas une satisfaction. On est rassasié parce qu'on... Enfin, rassasié. On pense être rassasié en ayant plus, et au final, ça apporte juste plus de soucis, au lieu d'apporter la satisfaction qu'on cherchait. Et puis aussi, Proverbe 27, verset 20. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. Donc c'est vraiment quelque chose qui est, je pense, dans notre nature pécheresse, le fait d'être insatiable, d'avoir en permanence envie de quelque chose. Et si on arrive à obtenir cette chose, et ben on aura envie d'une autre. C'est juste la façon dont notre nature pécheresse est faite. Il n'y a pas de raison d'avoir de culpabilité pour ça. Par contre, c'est important d'en être conscient, pour pas passer sa vie à poursuivre quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Et ça m'amène à la deuxième partie, en fait, de ce dont je voulais parler. C'est complètement lié, mais j'avais jamais vu le lien, en fait, entre le contentement et puis ce sujet. Ce sujet, c'est un sujet sur lequel j'avais travaillé quand on a écrit le livre que votre âme prospère, le livre de Pasteur Chaleur, là, sur le fonctionnement de l'âme, de l'esprit, du cœur. Et ce livre faisait référence à quelque chose qu'explique un psychologue chrétien qui s'appelle Larry Crabb. Je ne sais pas si vous avez déjà lu des choses de lui, mais il a vraiment une façon très très claire et très simple d'expliquer les choses. Et ce qu'il explique, c'est que tout être humain a deux besoins fondamentaux. Il y a un besoin de sécurité, de se sentir en sécurité, et un besoin de sentir qu'il a de la valeur, d'être considéré ou une raison d'être, en fait. Et ces deux besoins-là, en Éden, ils étaient parfaitement comblés par Dieu. Adam et Ève, ils étaient parfaitement en sécurité dans la présence de Dieu dans le jardin d'Éden. Ils risquaient rien, en gros. Et ils avaient une valeur extraordinaire. Dieu les avait créés comme étant le sommet de la création, avec une responsabilité dans le jardin. Aucun problème, ni de sécurité, ni de valeur. Et puis avec la chute, en fait, ils ont perdu ça. Ils ont perdu la relation proche avec Dieu qui remplissait ces deux besoins-là. Ils se sont retrouvés chassés du jardin d'Éden et avec des dangers qu'il n'y avait pas avant. Donc plus ce sentiment de sécurité et puis plus le sentiment de valeur. Ils avaient tout gâché en gros. C'est quand même pas très simple. Et donc nous on hérite de ça en fait. Quand on est, notre nature adamique, elle a ces deux manques au fond d'elle. Le besoin de se sentir en sécurité et le besoin d'avoir de la valeur. Et le truc c'est que ces deux choses-là, ça ne peut être comblé que par Dieu. En fait, il n'y a que Dieu qui peut nous donner le sentiment d'être en sécurité et le sentiment d'avoir de la valeur. Mais comme Satan veut tout, sauf qu'on ait une relation avec Dieu, en fait, il fait tout ce qu'il peut pour nous proposer plein de substituts, pour nous donner plein de trucs ou nous faire croire que plein de trucs peuvent nous rendre plus en sécurité ou nous donner plus de valeur pour qu'on n'aille pas le chercher en Dieu, en fait. Et c'est vraiment ce que fait le diable et ce que fait le monde, c'est de nous offrir plein de solutions pour pas nous tourner vers Dieu pour solutionner ce besoin. Et donc ça, c'est ce que Larry Crabb et ce qu'on a repris dans le livre, on a appelé ça des fictions directrices. Ça veut dire en fait des idées qu'on a dans notre âme de comment je peux me sentir en sécurité et comment je peux me sentir considéré et ayant de la valeur. Et en fait, quand on commence à réfléchir, on en a tous quelque part dans notre âme des fictions directrices. Des fois, elles sont pas du tout conscientes. Des fois, on le sait et on essaye de lutter contre. Mais c'est juste important de comprendre qu'on fonctionne comme ça dans nos têtes pour pouvoir lutter quand les choses se présentent. Par exemple, quand on parle de considération, on peut avoir des idées comme le jour où je serai riche, justement, le jour où j'aurai tel revenu, je serai quelqu'un d'important, j'aurai de la valeur. Mais pour le moment, je considère que je suis en bas de l'échelle, quoi. J'ai pas une valeur extraordinaire. Ça, c'est une des façons. Il y a des gens pour qui c'est quelque chose, ils se sentent pas ayant la même valeur que les autres parce qu'ils ne gagnent pas autant que les autres, par exemple. Ça peut être quand j'aurai réussi dans mes études, quand j'aurai eu tous mes diplômes, quand j'aurai le maximum de ce qu'on peut avoir. Là, je serai quelqu'un qui a de la valeur. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Ça peut être aussi des choses pas aussi sociales, mais ça peut être simplement le fait de jamais faire d'erreur. Quelqu'un qui est très très perfectionniste et qui, tant que tout n'est pas fait exactement comme il voudrait le faire, il pense qu'il n'a pas de valeur en fait. Tant que je réussis 9 trucs sur 10 ou même 99 sur 100, mais voilà, il y a ce dernier que je réussis pas, donc j'ai toujours pas de valeur. Il faut que je continue à m'astreindre à arriver à avoir plus de valeur. Ça peut être que ses enfants tournent bien, ça peut être aussi un truc, c'est j'aurai de la valeur socialement. Si mes enfants ont un bon boulot, qu'ils se marient avec des gens bien, c'est la condition pour que je sois quelqu'un qui ait de la valeur. Ça peut être aimé de tous aussi. Il y a des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont de la valeur que si tout le monde les aime. Et du coup, ça les amène parfois à faire des compromis dans certaines situations parce que pour que cette personne fait un truc avec laquelle je suis pas d'accord. Mais si je lui dis, il risque de plus m'aimer. Et s'il m'aime plus, j'aurai plus autant de valeur à mes yeux. Donc, je passe sur le truc avec lequel je suis pas d'accord et puis on n'en dit rien et on reste amis. Donc, ça amène plein de choses, en fait, d'avoir ces fictions directrices dans nos vies. Donc là, je parlais de considération, mais c'est vrai aussi pour la sécurité. L'argent, elle revient encore là pour la sécurité. On peut se sentir très désécurisé si on n'a pas de l'argent de côté, de l'argent en avance, un salaire suffisant, etc. Ça peut être sur le plan émotionnel. On peut se sentir désécurisé si on n'a pas, par exemple, un mari attentionné. Alors, soit on n'a pas de mari du tout, et ça peut être une forme de « il me manque la sécurité d'avoir un mari », ou bien on en a un, mais on trouve qu'il n'est pas assez attentionné, qu'il ne fait pas attention à nous, et on se sent aussi désécurisé. Ça peut être aussi pour des raisons comme ça. On peut aussi avoir cette fiction directrice de se dire je me sentirai en sécurité le jour où il n'y aura plus jamais aucune critique, plus jamais personne ne critiquera ce que je fais. Et du coup, bah, comme ça n'arrive jamais dans la vraie vie, qu'il n'y ait aucune critique, on a tout le temps cette impression qu'on n'est pas en sécurité. Voilà, on peut multiplier les exemples, en fait. Mais c'est juste que c'est important de peut-être de se placer devant Dieu et de se poser la question, dans tous ces exemples et dans plein d'autres, qu'est-ce qui, pour moi, est quelque chose qui me motive et qui est ma raison de vivre et qui m'aide à me sentir en sécurité et à avoir de la valeur. Et si je réalise qu'il y a une de ces choses qui en fait partie, alors c'est vraiment important que je puisse me placer devant Dieu et dire, en fait, ma valeur, elle vient de toi, Seigneur. Ma sécurité, elle vient de toi. Et aucune de ces choses, même si j'arrivais à les obtenir, à les atteindre, ne pourrait te remplacer et ne pourrait me donner ce que je cherche. Parce que quand bien même j'y arriverais, quand bien même j'ai des enfants qui tournent bien, qui font tout nickel parfaitement, quand j'en arriverai à ce point-là, il y aura autre chose. Il y aura encore autre chose qui me fera sentir désécurisé. Parce que le vide qu'on a en nous, il est en forme de Dieu, il n'est pas en forme d'autre chose. Donc tant qu'on n'a pas rempli le vide avec la bonne pièce, et en l'occurrence c'est Dieu, on ne peut pas se sentir satisfait. Et on va lire du coup le psaume 63, qui parle de Dieu comme étant la réponse, la solution au vide qu'on ressent parfois ou quand on attend quelque chose. Psaume 63, en commençant au verset 1. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche au point du jour. Mon âme a soif de toi, ma chair languit après toi, dans une terre aride et altérée, sans eau, pour voir ta force et ta gloire, comme je t'ai contemplé dans le lieu saint. Car ta bonté est meilleure que la vie, mes lèvres te loueront. Ainsi je te bénirai durant ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme est rassasiée, comme de moelle et de graisse, et ma bouche te louera avec des lèvres qui chantent de joie. Quand je me souviens de toi sur mon lit, je médite de toi durant l'éveil de la nuit, car tu as été mon secours, et à l'ombre de tes ailes, je chanterai de joie. Mon âme s'attache à toi pour te suivre, ta droite me soutient. » En fait, c'est auprès de Dieu, en passant du temps avec lui, en le contemplant, en étant dans sa présence, en étant en communion avec lui, qu'on est véritablement rassasié et qu'on n'a plus besoin de quelque chose, il n'y a plus rien qui nous manque. Et le mot, en fait, quand on regarde le mot grec pour contentement, là, dans le premier verset en 1 Timothée 6, la piété et le contentement sont un grand gain. Ce mot grec, il a ce sens de satisfaction ou de rassasiement. En fait, être contenté, être content, ça veut dire être rassasié, être satisfait. Et là, comme on vient de le lire dans le psaume 63, c'est par Dieu qu'on peut être rassasié. C'est pas autrement. Et toutes les fictions directrices possibles et imaginables sont incapables de combler nos désirs, en fait. C'est juste des trucs que Satan fait miroiter en nous disant « Tiens, prends ça, si tu vas voir une fois que tu auras ça, tu n'auras plus ce sentiment de manque au fond de toi. » Et puis le sentiment de manque, il y sera toujours, parce que même si cette chose-là, on l'obtient, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même si on l'obtient, il y aura autre chose. Il y aura autre chose. Tandis qu'une fois qu'on a Dieu, il ne manque plus rien. Il ne manque plus rien. Psaume 65 aussi, au verset 4. « Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher, il habitera tes parvis, nous serons rassasiés du bien de ta maison, de ton saint temple. » En fait, il y a un lieu où on peut trouver le rassasiement pour nos âmes. Il y a une personne, c'est Dieu, et puis le lieu, c'est la maison de Dieu, l'endroit qu'il a pourvu, où on l'entend nous parler, où on apprend à le connaître mieux, et puis où on expérimente aussi la communion avec les frères et sœurs. Et ça aussi, c'est une forme de rassasiement. C'est aussi une des choses qui participent à notre contentement. Et puis, psaume 90, au verset 14. Rassasie-nous au matin de ta bonté et nous chanterons de joie et nous nous réjouirons tous nos jours. En fait, c'est un truc pour la vie chrétienne, c'est que si on arrive à passer un peu de temps avec Dieu le matin en commençant notre journée, en fait, en faisant ça, on remplit dans notre cœur ce vide par la bonne chose. Et du coup, après, quand le diable va mettre devant nos yeux les fictions directrices en disant « t'as besoin de ci, t'as besoin de ça », on aura moins tendance à mordre à l'hameçon. Parce que non, j'ai plus besoin de rien en fait. J'ai eu tout ce qu'il me fallait ce matin. En tout cas, ça nous donnera déjà de l'aide pour résister dans la journée à toutes les choses sans valeur que le diable veut essayer de nous proposer pour combler ce vide. Et puis enfin, en 2 Corinthiens 12, verset 9, vous connaissez ce passage de ce que dit l'apôtre Paul. Enfin, ce que Dieu dit à l'apôtre Paul, « Ma grâce te suffit ». Et c'est la même famille de mots grecs, suffire et contentement, c'est la même chose. En fait, le contentement, c'est Dieu me suffit. C'est juste ça. Et du coup, quand on peut dire ça, eh ben, en fait, ça devient, on devient indépendant des circonstances, en fait. Si Dieu me suffit, alors quoi qu'il arrive, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Et du coup, je vais lire encore quelques versets. En hébreu, au chapitre 13, au verset 5, alors il est de nouveau question de l'argent, mais pas que. Hébreu 13, verset 5, « Que votre conduite soit sans avarice, étant content de ce que vous avez présentement. » Et la raison, c'est car lui-même a dit « Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point. » C'est la même chose que le passage de Matthieu 6 qu'on a lu au début, en fait. On est content parce qu'on est satisfait de sa présence, parce qu'on a tout ce qui nous suffit, et parce qu'on a sa promesse qu'il se soucie de ce dont on a besoin au niveau pratique, matériel, et qu'il va pourvoir pour ces choses-là, qu'on n'a pas besoin de s'en inquiéter. Il y a aussi Proverbe 15, les versets 15 et 16. Tous les jours du matin, je vous le lis, je crois, en Darby, mais c'est peut-être un petit peu différent d'une version à l'autre. Tous les jours du malheureux sont mauvais. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Et puisque dit Paul en Philippiens 4, verset 11, j'ai appris à être content en moi-même dans les circonstances où je me trouve. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si Dieu remplit le vide qu'on a dans le cœur, alors les circonstances importent peu. En fait, on est satisfait, on est rassasié et on n'a pas besoin de chercher dans les choses du monde, bonnes ou mauvaises, de quoi nous rassasier. On est déjà rassasié. Et du coup, on va revenir pour finir à notre passage de 1 Timothée 6. On va finir comme on a commencé. Et on va lire les deux versets que je n'avais pas lus au début, les versets 11 et 12. Donc vous vous rappelez le début, c'était donc « La piété avec le contentement est un grand gain ». Et puis en gros, attention aux richesses, parce qu'elles vont vous donner envie de plus et elles ne vont pas vous apporter la satisfaction. Et puis, pour reprendre la fin du verset 10, même le verset 10, c'est une racine de toutes sortes de maux que l'amour de l'argent, ce que quelques-uns ayant ambitionné, ils se sont égarés de la foi et se sont transpercés eux-mêmes de beaucoup de douleurs. Mais toi, ô homme de Dieu, fuis ces choses et poursuis la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur d'esprit, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Et en fait, j'ai souvent lu ce verset un peu... en fait, je l'ai tellement entendu depuis que je suis petite que des fois, je réfléchis pas à ce que les mots veulent dire. Et notamment, combattre le bon combat, pour moi, ça, j'avais cette idée de... C'est un chrétien qui arrive à la fin de sa vie et qui dit... J'ai combattu le bon combat. En gros, j'ai pas lâché l'affaire, quoi. Je suis restée croyant jusqu'au bout. C'est bon, j'ai combattu le bon combat. Mais quand je regarde le contexte, là, ce dont il parlait dans les versets d'avant, c'est notre sujet d'aujourd'hui. C'est en fait ne pas saisir toutes ces choses que le diable nous offre comme étant des choses dont on a besoin et à la place avoir Dieu comme contentement. Et en fait, Dieu nous dit de fuir ces idées, ces fictions directrices dont on parlait tout à l'heure. Ces choses qui sont dans nos vies et qui nous font croire qu'on a besoin de ça pour être heureux, qu'on a besoin de ça d'aller plus loin, qu'on a besoin de ça pour marcher avec Dieu. On doit les fuir, ces idées-là, parce qu'elles viennent pas de lui. Et pour moi, combattre le bon combat de la foi, c'est ça. C'est combattre ces choses. Et je sais que ça... J'essaye de me checker quand ça vient. Et c'est marrant parce que... Donc ça, c'était il y a quelques semaines dans ma lecture que je m'étais fait ces réflexions-là. Et je m'étais dit, ouais, c'est vrai, il y a toujours eu quelque chose dans ma vie où je me disais, ça ira mieux quand j'aurai ça, ça ira mieux quand j'aurai ça. Maintenant, il faut que je passe à autre chose. Et puis un matin, là, tout récemment, j'étais en train de réfléchir à quelque chose et je me suis surprise à dire, mais ça sera après le décès de mon papa, et ça sera quand je serai à la retraite. Je me suis dit, mais tu recommences, c'est pas possible, c'est sans fin ce truc, c'est quand même incroyable, au lieu de te dire là maintenant, aujourd'hui. Donc en fait c'est un combat de tous les jours, c'est pour ça que c'est un combat, c'est le bon combat de la foi, c'est le combat de vivre chaque jour par la foi et pas en fonction des pensées naturelles qui nous attirent vers le bas et qui nous font croire qu'on a besoin d'autre chose que de Dieu. Donc oui, c'est vraiment le... Je pense qu'on a besoin de faire régulièrement un check de contentement. Et pas juste me dire, est-ce que je suis contente de ma... Parce que pour moi, avant, ça voulait dire ça, le check de contentement. C'est, est-ce que je suis contente de ma vie, là, de ce qui se passe? Non, mais c'est, est-ce que j'attends quelque chose d'autre ou est-ce que là, c'est bien? C'est bien là où j'en suis. Il y a plein de choses qui me plaisent pas. J'espère qu'elles vont changer. Mais c'est pas grave. Il y a quand même quelque chose à vivre aujourd'hui. J'ai Dieu aujourd'hui dans ma vie. J'ai plein de raisons d'être heureuse et ça suffit.